Tout tourne rond sur cette terre, et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout, sauf notre culture, linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue dans le podcast « Tout tourne rond sur cette terre », le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif « Tout tourneront sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer ». Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Au cours de la première saison de ce podcast, nous avons exploré avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes. Adossée à ces partages, la seconde saison a pour thème « Bâtir une société humaine qui soutienne la vie ». Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Irigoyen, elle-même auteure du podcast « Fréquence collective ». Dans l'épisode du mois dernier, j'ai eu le plaisir de rencontrer René Becker, agriculteur et éleveur pendant 20 ans, formateur en agroécologie, biodynamie et élevage basé sur la relation sensible aux animaux. Il nous a parlé de la dette que nous avons avec les animaux domestiques, car sans eux, nous n'aurions jamais fait société comme nous l'avons fait. Honorer cette dette pour lui, ce serait remettre de la sensibilité, de l'intelligence du cœur dans nos relations avec eux, en tant qu'éleveur, éleveuse ou non. C'est-à-dire être sensible pleinement à ce que vit l'être avec lequel je travaille, qu'il s'agisse d'une carotte, d'une chèvre ou d'un arbre fruitier. La relation, l'espace invisible à guérir. C'est aussi dans cet espace-là, la relation, qu'agissent les humains parfois à leur insu. De façon plus consciente, les chamans et hommes médecine y interviennent pour préserver les équilibres. C'est à cet endroit que la guérison est possible, lorsque chaque être trouve son équilibre et sa médecine personnelle. Lorsque chaque être peut soigner les liens que son histoire personnelle a tissés avec ce qui l'entoure. Un espace dont ces sociétés prennent grand soin, et où se nourrissaient, dans leur structure traditionnelle, avant qu'elle ne soit bouleversée par notre modernité, les trois besoins nécessaires à un être humain pour qu'il puisse s'épanouir. Sécurité, identité dans le sens appartenance et sens. Un espace dont nos sociétés modernes se sont peu à peu désinvesties, limitant les réponses à ces besoins fondamentaux à une quête personnelle de confort et de satiété des désirs, générant un modèle où production et consommation sont devenues la raison d'être des humains dans le système et qui orientent leur vie. Et dont nous cherchons aujourd'hui précisément le sens, que ce modèle a dilué, emportant au passage, en uniformisant le monde, ce qui faisait les racines de nos identités et, in fine, avec notamment la crise écologique, notre sécurité elle-même. Dans cet espace de relation, là où ces sociétés ont depuis toujours, par nécessité, cherché l'équilibre dans une vie en mouvement, nos sociétés modernes entretiennent l'illusion de la domination de l'humain sur la vie, au risque d'engendrer la maladie. Elles cherchent à contrôler le mouvement et les formes qui peuvent en émerger, oubliant que toute forme vivante ne peut naître que du mouvement. En ce sens, ces sociétés racines sont en effet des sociétés animistes. Leur pensée conçoit que le vivant est animé par un espace entre, le plus qu'humain, et accompagne le mouvement quand notre pensée tente, dans un élan contraire, de le soumettre. Pour accompagner ce mouvement, maintenir l'équilibre dans ces espaces qui nous relient, apprendre à leurs semblables ce qu'est le métier d'être humain, et réparer quelques disharmonies, ces hommes et ces femmes qui accèdent à la part invisible du monde ont, au fil des millénaires, affûté des outils très variés. Outils de guérison, outils de réharmonisation, individuelle et collectif, qui permettent d'explorer ces espaces invisibles où la relation entre les êtres, les choses et le cosmos oriente le mouvement, où le plus qu'humain retrouve sa place pour restaurer les équilibres. J'ai le plaisir d'accueillir autour de ce micro aujourd'hui Charlotte Emery et Florent Guittard, co-créateurs et créatrices de Terract, accompagnateurs des entreprises et collectifs à mieux travailler ensemble, à améliorer leurs conditions de travail et à prendre des décisions collectivement. Je suis d'autant plus ravie de les retrouver là autour du micro que nous venons de terminer ensemble un module de formation action pour un collectif qu'ils connaissent bien et que ça a été vraiment extrêmement enrichissant et agréable. Alors, Florent, Charlotte, comme vous le savez, ces épisodes s'ouvrent avec une question toujours la même. D'où as-tu envie de parler? De quel endroit de toi? De quel vécu? De quel moment dans ta vie? Lequel de vous deux a envie de commencer?
Je vais commencer. Merci Marine, je suis ravie qu'on soit là tous les trois. Et moi, j'ai envie de parler d'ici, là, d'où je suis assise sur ma chaise, avec tout le bagage construit au fil de mon existence, notamment depuis mon rapport au travail, qui a toujours été un rapport d'exploration dans différentes structures. Et j'ai toujours été curieuse de comprendre ce qui se passait, de pourquoi j'étais là, de ce que je voulais faire, avec souvent une envie de faire autre chose que d'être là et de gagner de l'argent et de rentrer chez moi le soir. Et j'ai aussi envie de parler depuis mon individualité et mon questionnement à peu près constant sur les relations humaines et les relations sociales. Une interrogation sur pourquoi ça se passe comme ça en fait, pourquoi les humains interagissent d'une manière qui n'est pas toujours bonne pour eux ou optimale. Et j'ai toujours eu ce questionnement-là dans ma vie avec mes amis, avec ma famille et aussi au travail. Et je crois que c'est tout ça qui a construit ce dont on va parler aujourd'hui.
Moi, je suis Florent, je prends la suite. Merci Marine, je suis très heureux d'être là. Moi, je dirais que j'ai envie de parler. Je suis un homme, je suis un papa qui a ses fragilités et ses forces. Je suis une personne qui ressent en moi une montée en conscience progressive que j'avais certainement laissé à des endroits enfouis précédemment. Et dans ces 10 dernières années, je sens que ça monte, cette montée en conscience qui s'incarne par qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, comment être utile, comment faire mieux, de manière un peu bête peut-être, mais je me questionne là-dessus. Le passage des 40 ans a aussi mis en exergue un côté un peu sensible, mais une force, des convictions qui nourrissent ses besoins et ses envies. Et la récente crise Covid aussi a mis un spot éclairant sur la nécessité que le monde doit changer. Et j'ai senti un certain alignement de planète à cet endroit-là. Et ce que j'aime et ce qui m'anime, c'est réfléchir de manière globale. Pas me focaliser sur des détails, m'ouvrir, faire que mes certitudes soient plutôt des avis. Et puis j'aime aussi, c'est aussi ce que j'ai envie de faire un peu aujourd'hui, dans ce moment-là ensemble, c'est d'activer mon sens critique, mon regard critique sur ce qu'on touche, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on sent, sur ce qu'on ressent. je fais ça vraiment dans le sens où je questionne le travail et le rapport au travail, et c'est à cet endroit-là que je souhaite parler aujourd'hui.
Alors c'est intéressant, effectivement, on va parler de ce travail qui fait partie de nos vies à la plupart des êtres humains, qui prend une place incroyable, hein. En préparant cet épisode, on faisait le calcul et on se disait que, mais finalement, si on travaille à peu près 40 ans sur nos vies, eh bien on passe 9000 jours au travail, soit 72 480 heures tout au long de nos vies, hein. Comme tu le dis souvent, finalement, on fréquente plus nos collègues que nos familles ou que nos amis. Et finalement, c'est drôle comme à la fois c'est tellement habituel, et comme ce n'est pas en général un sujet de réflexion. On réfléchit peut-être sur la nature de nos métiers, mais sur nos conditions de travail, c'est presque un non-sujet, ou c'est un sujet qui peut parfois révéler des difficultés, des tensions, des burn-out, des malaises. Voilà, avec aussi plein de questions sur, mais est-ce que je peux me permettre de changer? Non, il faut que je tienne encore le coup parce que j'ai quand même les enfants aux études, le prêt de la maison à rembourser. Enfin, voilà, donc c'est un vrai sujet et que vous avez choisi, vous, de creuser et d'explorer. Et voilà, moi j'aurais aimé vous demander, mais qu'est-ce qui vous a amené à cette réflexion globale sur la manière dont on travaille et pourquoi on travaille et l'impact de tout ça sur nos vies personnel, mais aussi sur nos entourages, évidemment, parce que quand on rentre à la maison, on emporte aussi avec soi le vécu de ce travail pendant 8 heures par jour.
Bien, je crois que le point de départ, il est que chacun individuellement, on s'est toujours posé la question de pourquoi on travaille, de pourquoi je ferais ce travail-là. Il me semble qu'on a tous les deux choisi avec plus ou moins de contraintes, voilà, dont tu parlais, le travail qu'on voulait faire, mais qu'on s'est toujours dit qu'il fallait qu'il ait un sens pour nous, au-delà de gagner de l'argent et d'assurer la sécurité, on va dire, de la vie quotidienne et de la famille. Donc je crois que ça part déjà de là, en fait. Moi, j'ai commencé le travail en voulant faire quelque chose d'utile et pour la société. Et en y voyant aussi un vecteur de développement personnel, en fait, d'apprendre des choses, de participer à une action collective. Donc je crois qu'il y a un petit peu ça. Et ensuite, on a observé au fil du temps des collectifs qui travaillent. On a observé la manière dont on travaillait avec notre équipe. On a tous les deux travaillé dans des collectivités territoriales qui sont des institutions publiques qui ont un mode de fonctionnement très ancré, très rigide, qui donne peu de place finalement aux individus. Et je crois que chacun, on a toujours cherché à comment on peut élargir un petit peu la place qu'on a et qui est écrite sur notre fiche de poste.
Qu'est-ce que tu feras comme métier plus tard? C'est des questions comme ça qu'on entend, on les conditionner. Des tout petits, en fait, par « tu ne travailles pas, mais quel travail tu feras ?» Et après, quand on travaille, quand on est adulte, quand on rencontre une personne pour la première fois, c'est « qu'est-ce que tu fais ?» Et chacun d'entre nous, on répond par notre activité professionnelle. On ne répond pas par autre chose. Un engagement, ou j'aime ce que je fais, c'est faire mon jardin, élever mes enfants. Ça arrive, mais pas souvent comme premier réflexe. Et donc, bah, y a nécessairement de quoi réfléchir à tout ça. Et c'est là-dessus qu'on se questionne. Aujourd'hui, c'est un impact, le travail a un impact important dans nos vies. On travaille, comme tu le disais, pour gagner de l'argent, qui nous donne le droit à avoir des vacances, qui nous donne le droit à pouvoir acheter une voiture, aller à la banque, s'acheter notre maison, élever nos enfants, les inscrire à l'école. Donc c'est nécessaire de le questionner. Si on passe à côté de ça, Ben, je crois qu'on vit une vie alors, qui, où le sens est un peu perdu, où on perd cette notion de sens. Et aujourd'hui, le burn-out, les dépressions, les, voilà, liées au travail, c'est un peu ce manque de considération de pourquoi on travaille. Quand on doit aider, accompagner des collectifs, les premières questions qu'on nous pose, c'est comment faire pour. Et on essaie d'être un peu au-dessus, d'avoir le pourquoi avant le comment. On dit souvent avec Charlotte que si les gens savent pourquoi, ils vont savoir comment. C'est pas de nous, hein, c'est des choses qui nous inspirent aussi. Donc on est à ce niveau-là, en fait, questionner le travail, le pourquoi du travail, notre rapport au travail. Et c'est alerté aujourd'hui par tout un tas de choses. Cette notion d'équilibre vie pro et vie perso, dont tout le monde parle, avec une définition individuelle, et qui devrait pourtant être une notion collective et universelle. Ce droit à la déconnexion, qui est en paradoxe complet avec nos téléphones dans nos poches et nos notifications professionnelles. Donc si on ne se questionne pas là-dessus, je pense qu'on passe à côté des vraies réponses.
Pendant plusieurs années, on a construit un programme de formation, de professionnalisation de salariés, en proposant souvent des formations de 2 jours, et qui étaient pour la plupart des formations au métier, en fait. Ce qui est demandé aussi la plupart du temps, dans le cadre réglementaire, on doit aider les gens à se perfectionner dans leur métier. Et ce qu'on a observé, presque systématiquement, c'est que les personnes qu'on formait pendant 2 jours, ne parvenaient pas à mettre en œuvre derrière. Il y avait peu de choses qui se passaient. Et on est allé creuser, en fait, quelles pouvaient être les causes de ce manque d'appropriation. Et ce qu'on a trouvé derrière, c'est... Il y en a plein, hein, des causes. Parmi ces causes, il y a le manque de clarté dans les rôles et dans les missions. En fait, la personne qui est allée en formation, c'est même pas forcément celle qui était légitime pour mettre en œuvre derrière. Donc peut-être qu'elle a essayé de le transmettre à un collègue, mais qui n'a pas suivi la formation, donc évidemment qu'il ne se passe rien. On a observé aussi, finalement, on n'a pas le budget pour le faire, donc on ne le fera pas. On a observé aussi, je ne me sens pas suffisamment en capacité, je n'ai pas suffisamment confiance pour rentrer dans ma structure et pour proposer un truc avec, moi tout seul, j'ai suivi ça, et je ne sais pas comment le mettre en œuvre derrière. Et c'est aussi beaucoup ce qu'on retrouve dans les cursus universitaires. En fait, on nous apprend à réaliser un métier d'un point de vue technique, mais jamais ou peu on nous apprend à travailler, en fait, à savoir comment faire, comment s'organiser avec ses collègues, comment monter un projet, comment interagir, comment animer une réunion.
Et donc ça fait vraiment écho à ce texte que vous avez choisi, que je lise au début en fait de cet épisode. C'est on apprend à monter en compétence, mais on n'apprend pas la question, on n'aborde jamais la question de la relation. Et moi ça me fait penser à cette enquête que j'ai menée il y a une bonne quinzaine d'années auprès de 30 personnes travaillant dans des structures diverses et variées sur leur niveau de satisfaction des réunions qu'elles menaient du lundi au vendredi. Et où aucune des 30 ne s'est dit satisfaite. Où certains disaient, il n'y a pas d'ordre du jour, c'est le bazar, parfois je me demande ce que je fais là, je ne suis pas concernée, donc je passe 1h30 là, ça ne sert à rien, c'est toujours les mêmes qui parlent, et les mêmes qui se taisent, on prend des décisions qui ne tiennent pas, enfin voilà. Et à la suite de ça, je leur avais demandé, mais qu'est-ce que vous avez déjà fait pour changer ça? Et la réponse de toutes, ça m'avait sidéré, avait été, mais rien. Comment ça, rien? Ben non, et pourquoi vous n'arrivez pas? Mais parce que le manager, la manager qui dirige cette réunion ne voudrait pas, parce que c'est pas comme ça qu'on fait, on a toujours fait comme ça, et puis de toute façon je sais pas comment faire. Et c'est vraiment intéressant du coup ce que tu dis, c'est à quel point on insiste sur la compétence, comme à l'école on insiste sur les matières, mais où l'école de la relation qui est comme partagé dans l'introduction, tellement cher à ces peuples racines, mais aussi au vivant qui se construit dans les interrelations entre tous les éléments, est passé complètement à la trappe en fait de nos manières d'aborder les choses, que ce soit le travail ou autre. Mais dans le travail, ça se voit fort et ça se vit fort parce que c'est 8 heures par jour, 5 jours par semaine pour beaucoup d'entre nous.
L'enquête dont tu parles me fait penser à une étude menée au niveau européen. C'est le rapport Gallup que vous pourrez aller consulter. Sur tous les pays européens, il y a au moins entre 1000 pardon, et 2000 salariés qui ont été questionnés à travers une grille assez élaborée qui parle du leadership, des interrelations, de la hiérarchie, du développement, des activités quotidiennes, des conditions de travail. Il s'est avéré que cette étude a mis en lumière des chiffres qui font un peu froid dans le dos, si on les prend comme ça, que seulement 20% des salariés sont investis dans leur travail en Europe, 61% ne sont pas investis, et 19% sont tellement malheureux qu'ils cherchent à nuire à leur employeur. C'est encore un endroit qui nous fait dire qu'il y a un problème.
Oui, et qu'on ne considère pas, en fait, qu'on ne regarde pas. Du moment que tout le monde continue à travailler, fermons les yeux.
Et peut-être même que, bizarrement, on vit en se disant « c'est comme ça ». Et donc, il n'y a rien à faire.
Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est justement ça. C'est que vous n'avez pas eu envie de vous contenter de cette réponse « c'est comme ça ».
Bah non. Non, on n'a pas envie parce que on trouve ça bête, dommage. Et puis moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis papa en fait. Et on entend dans nos discussions, famille, voisins, amis, oh là là, le monde de demain, j'ai pas envie d'y vivre. Et comment on va faire pour nos gosses? Et ça va être compliqué. Alors chaque génération pousse ça des générations d'après. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment vrai et que ça va être difficile pour eux. Donc on en reparlera certainement un peu de l'école et de toutes ces habitudes ancrées et qui aujourd'hui créent les résultats aujourd'hui dans l'entreprise. Mais oui, il faut absolument pour nous trouver de quoi faire diminuer ces chiffres.
Et ce qui est curieux, en fait, ce que tu disais, Marine, tout à l'heure, c'est qu'on ne cherche pas à résoudre ces problèmes-là, voire parfois on cherche à les résoudre en dehors du travail. Et en fait, quand on parle du travail dans la famille avec les amis, c'est souvent se plaindre d'une relation, ça se passe mal avec mes collègues. Et en fait, on cherche des clés sur ce qui se passe au travail, en dehors, et surtout pas dedans, parce qu'aujourd'hui, ces espaces existent peu. Et nous, c'est ça qu'on a eu envie de travailler, de chercher à instaurer et surtout de montrer aux organisations et puis aux individus qui y travaillent que c'est possible, en fait, et qu'il ne faut pas en avoir peur, surtout.
Et ce qu'on voit, et ce que le rapport aussi Gallup met en évidence, c'est que ces résultats-là, si on fait le focus sur la France, c'est 6% d'engagement au travail. Et derrière ces 6% d'engagement au travail, les choses à traiter seraient le rapport et le traitement injuste au travail. Donc il y a cette notion d'injustice qui arrive assez nettement. Avant la charge de travail, avant le fait de j'ai beaucoup de boulot à faire. Et ce traitement injuste du travail, il est qualifié par de la communication peu claire entre les personnes, cette relation. Le fait d'un manque de soutien des uns et des autres, une entraide plutôt faible et un manque de soutien réel du management.
Et du coup, mais pour vous, tout ça, évidemment, touche à ce sujet qui a un nom aujourd'hui. Ça s'est nommé par contre, hein, c'est la qualité de la vie et des conditions de travail. Et qu'est-ce qu'effectivement le cadre qui entoure cette qualité de vie et des conditions de travail prévoit? Quels sont les possibles, quelles sont les portes que cette QVCT tente d'ouvrir ou ouvre? Quelles sont ses limites de votre point de vue? Et puis on ira voir quelle est quelle déclinaison vous en faites, ce qui vous intéresse et sur quoi vous travaillez particulièrement.
Alors déjà, ce cadre, il est plutôt récent. En fait, la démarche, elle date des années 50, avec une première critique du taylorisme, en fait, la monotonie des tâches, le fait qu'on ait cherché à segmenter, à sectoriser le travail et que ça réduise les individus à la mise en œuvre de tâches répétitives et que ça casse, en fait, quelque part, le lien entre les individus. Un petit peu plus tard, c'est ajouté la notion de risque professionnel, puisqu'avec ces tâches répétitives, on a vu arriver des accidents, un mauvais usage des machines ou des outils de travail ou une charge de travail trop forte qui fait qu'il y a un accident et que là, bah, forcément, on est obligé de se poser des questions. Donc on a cherché à aller un petit peu en prévention de tout ça pour réduire les risques. Et en France, ça s'est développé vraiment à partir des années 2000. Et on a commencé à intégrer cette notion de prévention. Alors beaucoup sur les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux. C'est des termes qui sont apparus à ces moments-là pour essayer de les réduire. Et de plus en plus, on tend vers, depuis les années 2010, vers aller au-delà, en fait, vers une considération de la santé de manière globale, au sens d'un bien-être plus global de la personne, qui n'est pas seulement l'absence de maladie. Et avant, on considérait le travail un petit peu comme, au mieux, le travail n'est pas source de maladie. Donc c'était vraiment s'il n'y a pas d'accident, c'est que ça va. Et on a introduit petit à petit ces notions d'accomplissement de l'individu, en fait, que le travail peut aussi avoir des effets positifs sur la santé. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il était considéré par notamment Karl Marx, en fait, qui proposait le travail comme un vecteur potentiel d'accomplissement de l'individu au service d'un projet collectif. Et donc, en France, il y a un accord national sur la qualité de vie au travail qui a été écrit en 2013, qui a été signé et qui a été complété en 2020 suite justement à ce qui s'est passé pendant la crise Covid, pour le compléter et pour aller un petit peu plus loin que la qualité de vie au travail. Notamment en rajoutant le C, puisqu'on avait observé que la QVT s'ancrait un petit peu dans une dérive très individualiste et qui revient à ce que tu lisais tout à l'heure, en fait, au consumériste, au matérialiste et au repli de l'individu sur soi. Et donc, le C a été rajouté pour reprendre le travail dans sa globalité et dire qu'on parle bien du travail et pas des à côté du travail qui permettent que les salariés se libèrent d'autres choses, en fait. Donc, ce qui est prévu dans la loi, c'est une responsabilité de l'employeur du point de vue de la santé des salariés de manière assez large, en fait. Il y a assez peu de précision sur la manière de fonctionner. Il y a une obligation aussi d'aider le salarié à monter en compétences avec des entretiens professionnels pour garantir cette mise en place.
Fort de ça et des propos de Charlotte, une petite expression qui n'est pas la nôtre, hein, qui est un chercheur de l'ANACT là-dessus, c'est la QVCT, c'est pas la cerise sur le gâteau. C'est vraiment la farine qui tient le gâteau. Donc, et ça nous aide et ça nous guide, nous aussi, pour pouvoir faire passer des messages et accompagner une entreprise, une organisation qui souhaite travailler ses conditions de travail, la qualité du travail d'une manière globale. C'est pas une action en plus. Nous, on les encourage à pas penser que c'est en plus. Mais c'est bien la farine qui tient en fait tout le gâteau. Et la définition qu'on utilise le plus, c'est la qualité due au travail. Enfin, c'est d'abord le sentiment de faire un travail de qualité. Donc il n'y a pas de qualité due au travail sans travail de qualité. Ce qui nous permet, nous, de pouvoir explorer les différents pétales que propose l'ANACT. Donc l'ANACT a mis en place un référentiel.
L'ANACT, c'est quoi ?
L'ANACT, c'est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, qui, à travers ce qu'elle appelait la fleur de la qualité du travail, recense les différents pétales que le champ de la qualité du travail englobe, à savoir les relations au travail, à savoir le contenu du travail, les pratiques de management, la santé, les compétences et le parcours professionnel, et l'égalité professionnelle. Et c'est vraiment un outil important et puissant parce que ça permet de faire une distinction majeure entre ce qu'on entend parfois, le bonheur au travail, véhiculé par certains reportages ou ce qu'on peut entendre en discutant dans les entreprises, du bien-être au travail, qui est encore une notion différente, de la QVCT, de la qualité de vie, des conditions de travail, qui est une approche beaucoup plus globale.
Ok, et qui s'inscrit, d'après ce que je comprends, davantage vraiment dans le quotidien du travail. Si c'est la farine qui tient le gâteau, c'est pas un truc qu'on fait le mercredi de 16 à 18 heures ou la séance de yoga qu'on va faire de midi à 12h30 parce qu'il y a une salle qui le permet dans l'entreprise.
Exactement.
C'est pas de ça qu'on parle.
Okay. Exactement.
Très bien. Et du coup, vous deux, quelle est votre touche à vous sur ce sujet et je crois savoir que vous faites un lien évident entre la qualité de vie et des conditions de travail et les pratiques d'intelligence collective. Est-ce que vous en diriez quelques mots ?
Bien sûr. Nous, la touche qu'on a envie d'y mettre, c'est d'apprendre à fonctionner autrement et à être en relation autrement. C'est le passage du livre que tu lisais au démarrage, en fait. C'est de repenser les relations au travail comme permettant de faire un travail de qualité. Et ça passe par donner aux salariés, tous, hein, et souvent le dirigeant et salarié aussi, et on a tendance à l'oublier, la possibilité de s'exprimer déjà, et ensuite d'agir sur son travail. Donc pas uniquement sur les conditions de travail individuelles, mais sur les conditions collectives de travail, que ce soit dans le fonctionnement quotidien et que ce soit dans le développement de la structure, en fait, dans le futur. Et la touche qu'on y apporte, nous, c'est aussi une réflexion sur la durabilité du modèle, comment on fait pour construire des projets qui soient en relation avec le monde dans lequel on vit, qui soient au minimum... qui ne soient pas du tout, d'ailleurs, destructeurs du vivant ni des individus. Et l'angle qu'on a construit et qu'on trouve, nous, aujourd'hui, le plus pertinent dans notre approche, c'est de faire discuter les salariés et les managers et les dirigeants ensemble pour explorer leurs conditions de travail, pour qu'ils soient en capacité de mettre des mots dessus, de s'exprimer comment ils vivent leur travail et puis... quelle est la qualité qu'ils perçoivent, est-ce que c'est satisfaisant pour eux, à la fois dans ce qu'ils produisent et à la fois dans la manière de le produire. Et ce qu'on essaie d'introduire justement avec des pratiques d'intelligence collective, c'est un espace de discussion sur ce travail-là, que chacun puisse s'exprimer et que ensemble les collectifs de travail puissent trouver leur propre solution d'amélioration. On ne vient jamais poser des « il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça », parce que chaque solution est propre à l'organisation, parce qu'elle a une histoire, parce qu'elle est composée d'individus qui ont chacun, voilà, qui viennent chacun avec leur bagage, qui arrivent chacun le matin, soit en ayant fait 20 minutes de voiture, soit en ayant pris le vélo, soit en ayant déposé les enfants, et que tout ça, ça fait ce qui se passe dans le travail ensuite. Donc c'est cette approche-là, et ce mariage des sujets de la qualité de vie et des conditions de travail et des pratiques d'intelligence collective qui nous permettent aujourd'hui d'accompagner les organisations.
Oui, on a tous, toutes et tous vécu une réunion, déjà. Et les codes qu'il y a dans une réunion ont souvent été les mêmes. Une table, un alignement de chaises et de tables, le manager au fond, des personnes qui arrivent peut-être en retard, un ordinateur sur les genoux ou sur la table, un collaborateur qui se cache derrière ses mails pendant qu'un autre parle, et peu d'interactions, beaucoup de descendants, de l'information, des formations, des réunions ennuyeuses.
Ou énervés,
voilà. Et souvent, sans compte rendu, et sans réelle prise de décision. Et donc la question c'est, où est la production? Qu'est-ce qu'on a produit? Qu'est-ce que ces gens-là, réunis le lundi matin à 9h, ont produit au service?
Et est-ce qu'on est fier de ce qu'on a produit?
Oui, est-ce qu'on est fier? Et déjà, voilà. Et donc c'est tout bêtement en fait, pourquoi nous, cette équation est, symbolise vraiment notre travail, QVCT plus IC, c'est mettre du sens dans ces espaces de discussion, qui sont ces réunions, qui ne sont pas en fait des endroits, qui sont des endroits, je veux dire, entre la machine à café où les gens discutent, où des choses se passent, où rien n'est produit, où il y a de l'informel et du relationnel, qui est très utile, à des réunions de travail très techniques, très descendantes ou informatives, ou, et entre, il n'y a pas grand-chose dans l'entreprise. Il n'y a pas réellement ces espaces de discussion formalisé avec de la facilité qui rendent les discussions productives, efficaces, qui nivellent au mieux possible en fait la hiérarchie, qui permet à des gens qui ne s'expriment peu et qui pourtant ont des idées de les donner et de les offrir, qui permet à ceux qui prennent beaucoup de place, qui parlent souvent pour rien dire, et ben d'être aussi alerté par le fait que j'écoute, je peux et j'apprends des choses aussi. Donc et ça, le mettre dans l'entreprise pour nous est la garantie de pouvoir améliorer les conditions de travail, améliorer les processus de prise de décision, améliorer la qualité de la production et globalement faire que tout le monde va mieux du management en passant par tout le monde en fait.
Tout à fait, et comme j'en avais témoigné pour ceux et celles qui ont envie d'aller écouter davantage sur les pratiques d'intelligence collective, il y a l'épisode 14 de ce podcast, où en plus, ces pratiques, elles améliorent aussi la relation de soi à soi, parce que quand je trouve ma place et que je peux prendre la parole et que je suis écoutée, et que ce que je dis, je vois que c'est intégré dans la décision qu'on est en train de prendre, mais ça guérit mes blessures de non-confiance en moi, mais aussi ça guérit les interrelations entre les personnes, même en dehors de la réunion en fait. Et donc c'est vraiment un effet démultiplicateur et qui œuvre à la santé de ces relations au travail.
Le fait de les faire vivre aussi éclaire les gens, comme tu le dis, et permet de et ça fait du bien parce qu'on enlève des tables, on met les gens en cercle, on crée des tours de parole, la production elle est affichée, il n'y a pas de reformulation, y a une fidélité à ce qui est produit, il y a beaucoup de satisfaction qui ressort de ça.
Un exemple très concret en fait de ce mariage entre QVCT et intelligence collective, c'est par exemple de construire et de co-construire ensemble un plan de développement des compétences d'une organisation.
C'est ce que vous avez fait chez vous, hein, je pense, dans votre...
C'est ça, c'est ce qu'on a fait nous avec notre équipe de 12 personnes. Et l'idée a été de se mettre autour de... pas autour de la table pour le coup, de discuter ensemble pour aller chercher quels étaient les besoins de montée en compétences de chaque personne, que ce soit des montées en compétences sur un métier, ou que ce soit plutôt en termes de savoir-faire, ou que ce soit plutôt quelque chose que j'ai envie de développer, qui colle pas tout à fait aujourd'hui à mes missions, mais j'aimerais bien que ce soit mis là, en fait. Et de le mettre en miroir avec les besoins de la structure pour son développement à venir. Et donc de faire coïncider tout ça, prioriser certaines choses, redéfinir en fait bien la manière dont vont évoluer les rôles et les missions, tout ça c'est à la fois très satisfaisant en fait. Enfin, moi ça a été très très satisfaisant de pouvoir poser ce vers quoi j'ai envie d'aller, et en même temps de savoir que ça contribue au développement de la structure et au projet collectif en fait. Donc là on a vraiment eu la sensation que chacun y met du sien et chacun contribue à l'effort collectif, tout en acceptant que certaines choses passent un petit peu au second plan. Donc c'est vraiment un bel équilibre, je trouve, entre l'individuel et le collectif.
Tout à fait. Et donc c'est passé effectivement de se occuper un poste et faire des tâches liées à ce poste à contribuer à quelque chose qui nous dépasse en fait et qui est l'œuvre et la production de notre collectif. C'est une posture très très différente.
Exactement.
Alors, en préparation de ce podcast, on s'était dit, mais finalement, et nous trois, c'est quoi notre rapport au travail ? Et voilà, j'avais envie de partager chacun, chacune, là, quel rapport nous entretenons avec le travail dans nos vies. Qui a envie de commencer ?
Moi, je peux commencer. C'est pas facile, parce que j'ai l'impression de travailler beaucoup. J'ai l'impression de faire des belles pauses, parfois aussi. En tout cas, aujourd'hui, mon rapport au travail, c'est de tenter de ne pas avoir une casquette ou un uniforme quand je suis au travail qui serait différent de la casquette ou de l'uniforme que j'ai dans ma vie. Et je crois que c'est ça ma principale réponse à cette question de rapport au travail. Je veux être moi. Je ne veux pas être une personne différente avec mes amis, avec ma famille, avec mes collègues, avec mes enfants. Et c'est pas si simple que ça, finalement. Parce que tout nous amène à à déconnecter, à débaucher, à prendre du bon temps avec nos amis, à pas forcément parler des choses qui nous ennuient, et notamment du travail. À plutôt passer vite fait les choses là-dessus. Oh, moi, le travail, voilà, l'équipe. Et voilà, à globaliser tout ça, à faire que je suis une seule et même personne et inviter les autres à faire pareil.
En effet, c'est pas évident. Je pense que le travail prend une grande place dans ma vie. Et pour moi, c'est pas gênant. Je crois que j'ai toujours eu un rapport au travail. De curiosité, d'exploration, de voir ce que je peux faire, de m'autoriser beaucoup de choses. Je ne me suis jamais empêchée parce que c'était pas écrit dans ma fiche de poste ou que mon chef, d'ailleurs, je n'ai jamais trop réussi à considérer ça comme ça. Donc un rapport d'aller chercher en fait, d'aller tester, de voir comment faire et de m'intégrer aussi dans un collectif de manière à trouver une place, ma place, à comprendre la place des autres et à le questionner toujours. Néanmoins, ça m'est arrivé de prendre un espèce de costume ou quelque chose comme ça. J'ai un exemple qui me vient en tête que j'ai trouvé assez génial, c'est... un jour où je prenais un covoiturage, et où forcément le covoiturage, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Donc je réponds évidemment par mon travail, et donc la personne me pose une question sur, je ne sais même plus quelle était la question, une question de travail, qui m'ennuyait profondément, et donc j'ai commencé à lui répondre de manière très automatique, comme j'aurais pu répondre à n'importe qui. Et là, elle m'a regardée et cette femme était clown. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « Oh là là, t'as pris ta voix professionnelle. » Et ça m'a fait rire et je la remercie encore parce que je me suis vraiment rendu compte et je me suis dit, ben oui, t'as raison, j'ai pris ma voie professionnelle parce que ta question, j'ai pas du tout envie d'y répondre, en fait. C'est pas ça qui m'intéresse, moi, dans mon travail. C'est la manière dont on le fait, la manière dont j'interagis avec mes collègues, la manière dont je peux faire bouger l'organisation. Et voilà, c'est un exemple que j'ai trouvé assez génial.
Tout à fait. Et moi, mon rapport avec le travail, en fait, c'est très étonnant parce que toute ma vie, j'ai mis en œuvre le fait de faire ce qui me passionnait. Et donc, aujourd'hui, soit on pourrait dire que je travaille beaucoup, soit on pourrait dire que je ne fous rien, parce qu'en fait, je ne sais pas où est la limite, en fait, entre le moment où je travaille et le moment où je ne travaille pas. D'autant que ce qui était vraiment important pour moi, c'est de toujours faire des choses qui, si le travail, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent, des choses qui contribuent à l'amélioration, il me semble, des relations et du monde. Voilà. Et donc... J'ai tout autant l'impression de travailler quand j'écoute un podcast le soir en tricotant pour nourrir mon propre podcast ou mes propres formations que je n'ai l'impression parfois de ne pas travailler quand je suis en train d'accompagner une équipe et que je les regarde et que je trouve que c'est fabuleux le chemin qu'ils viennent de faire et où je ressens un amour profond pour cette humanité en fait. Donc je ne sais pas très bien quand je travaille, mais j'aime ça en fait. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement pour moi... Le travail, c'est contribuer au monde. Voilà, j'ai l'impression que ça c'est ce qui concerne ce qui parle le mieux, je pense, de mon rapport au travail. Alors, tous les deux, actuellement, vous contribuez toujours à la MONA. Alors, la MONA, c'est la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, vous faites partie d'une équipe et d'une organisation plutôt classique, hein, même si, comme tu viens d'en témoigner, Charlotte, il s'y passe des choses pas complètement classiques. Et du coup, comment avez-vous appliqué au sein même de cette structure tout ce que vous partagez autour de cette qualité de vie et des conditions de travail ?
Oui, nous sommes toujours à la MONA. On a plusieurs activités et on travaille encore à la MONA. La MONA nous a permis beaucoup de choses, là-dessus notamment. Ça a été, dans son ADN, c'est une entreprise apprenante qui expérimente et innove. Et nous a permis à Charlotte et à moi de quasiment faire une pause dans notre travail pour travailler autrement et proposer autre chose pour le réseau pour lequel on travaille, mais également qui, par capillarité, a transpiré dans nos actions internes, dans nos relations internes. On a pu se former aux pratiques d'intelligence collective grâce à cette structure. On a pu approfondir et se former sur la QVCT. Et on a pu le mettre en pratique dans notre réseau, en proposant des actions d'accompagnement, en facilitant des temps avec les équipes. Et on a également mis en interne, on a utilisé ces compétences, on a mis à disposition ces compétences pour mettre en place des espaces de discussion sur le travail dans notre équipe. On est tous les deux élus du CSE, qui permet en fait également d'incarner ce rôle et le plan d'action QVCT qu'on a mis en place à la MONA. Donc c'est un vrai laboratoire pour expérimenter et mettre en place des choses en matière d'intelligence collective et en matière de qualité du travail.
Absolument, et je vois que j'avais noté là en préparation de l'épisode que vous aviez dit la fois passée que vous êtes allé chercher le vivant, à trouver le vivant en soi et dans les interstices. Et qu'on s'était dit, mais finalement, il y a une espèce de tension là que l'on peut avoir, nous les humains, entre on rêve d'être totalement libre et on lutte contre les entraves qu'on vit dans le travail, mais partout. Et souvent, ça nous empêche de voir les espaces de liberté des interstices et de s'engouffrer dedans et en allant les découvrir et les explorer et les exploiter. Mais il y a vraiment de nouveaux possibles qui naissent, en fait.
Complètement. Et je crois que ce qui permet à ces possibles de naître, c'est de Ben, c'est de travailler le terreau de l'organisation, en fait. Et la Mona avait déjà ce terreau favorable-là. Et tous ensemble, on le travaille vraiment depuis plusieurs années pour que ça rende possible à la fois un projet collectif qui soit satisfaisant et utile, et à la fois que chacun puisse s'autoriser à expérimenter des choses, à tester des choses, à aller faire des formations qui sont pas en relation directe avec ce que l'on fait aujourd'hui, mais qui pourraient permettre de rendre d'autres actions possibles. Et on nous l'a déjà fait remarquer, et je crois que ce qui fait que ça c'est possible, c'est la qualité des relations en interne, en fait. Et c'est des formateurs internes qui nous l'ont fait remarquer un jour, qui nous ont dit ce qui vous tient vraiment, ce qui fait la qualité du travail que vous produisez, c'est la qualité de vos relations, en fait. Je crois qu'on est arrivé aujourd'hui à une étape où on arrive à se dire les choses, où on laisse pas pourrir les situations, où on en parle, on cherche à les résoudre. Et ça, c'est... Je vais dire, c'est génial, mais c'est très sain, en fait.
Absolument, puis ce sont des interstices qui ne coûtent rien. Il n'y a pas besoin de s'acheter un nouveau matériel pour ça. Il y a juste à oser mettre des mots et à pratiquer la relation, peut-être effectivement avec des fondamentaux de l'intelligence collective qui créent de la sécurité. Mais ça ne demande pas de prendre des gros risques ou d'engager des gros frais pour changer ça.
Ça demande du temps, principalement. Et il y a un chiffre qu'on aime bien donner, parce qu'à la Mona, on a un espèce de suivi analytique, en fait, de notre temps de travail. Alors on pourrait en parler des heures, puisque réduire le travail à un temps avec le rapport au travail qu'on a exprimé tout à l'heure paraîtrait paradoxal, mais en tout cas ça nous a permis de nous rendre compte qu'on passait à peu près 20% de notre temps de travail sur la dynamique d'équipe, sur nos relations, sur améliorer la vie d'équipe, le fonctionnement, la manière dont on travaille, nos plans d'action, notre stratégie. Et ça, quand on en parle aux entreprises, ils nous regardent avec des gros yeux, ils disent « mais c'est énorme !» Et en fait, je crois que c'est nécessaire.
Tout à fait, et ça ton chiffre de 20% me fait tout à fait penser au témoignage d'Isabelle Peloux à l'école du Colibri, c'est l'épisode 15, je pense, l'épisode 15 de ce podcast, où aussi, à l'école du Colibri, ils passent 3 heures par semaine, ça doit faire à peu près 20%, 3 heures par semaine à travailler au fait d'être en paix avec soi, avec ses émotions, pouvoir les nommer, en paix avec les autres et en paix avec l'environnement, là. Et que c'est bien sûr ce travail-là qui fait qu'après le travail productif, d'apprendre les maths, le français, etc., est de meilleure qualité, que les enfants s'entraident plus. Donc c'est un vrai gain, ça demande de faire bouger la culture, de bouger les murs de la culture pour se l'octroyer et voir que ce temps passé à ça améliore tout le reste. Alors je crois savoir, je sais d'ailleurs, que à la Mona, vous avez mis en place des laboratoires qui sont à destination des acteurs régionaux et qui lient ces deux sujets, QVCT et intelligence collective. Est-ce que vous nous en parleriez ?
Ben oui, je vais vous parler de l'Entracte. L'Entracte, c'est une communauté apprenante sur la qualité de vie au travail dans le milieu des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Avec Charlotte, on facilite et on anime cette communauté depuis 2019 à travers des promotions et de formations où on accompagne des managers, des directeurs et directrices et des managers et manageuses du réseau sur toute cette montée en conscience, je veux le dire comme ça. Et on travaille avec eux une intention managériale qu'on nourrit, qu'on construit tout au long d'une année, qui permet en fait à ces personnes de faire grandir leur organisation, d'accompagner la transformation du réseau en travaillant sur de la co-construction de stratégies, sur des raisons d'être dans le réseau, Et pour nous, en fait, c'est tellement satisfaisant d'animer cette communauté, de voir des personnes s'investir, avoir envie, s'entraider, contribuer, grandir ensemble, que, bah, qu'on continue.
On a vu depuis plusieurs années des transformations à la fois des individus, des managers ou manageuses qui s'ouvrent, qui remettent totalement en question leur manière de fonctionner, qui comprennent que... qui s'avouent à eux-mêmes d'abord, en fait, qu'ils étaient en désaccord parfois avec eux-mêmes sur une manière de fonctionner un peu directive, sans savoir comment faire autrement. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer qu'une autre manière de faire est possible, qu'ils peuvent le tester avec les salariés. Et on a vu comme ça des gens se transformer, s'ouvrir. Parfois, ça se voit même physiquement, en fait, et dans les attitudes. Et dans les équipes, en fait, d'instaurer des espaces de dialogue, de résoudre des tensions. Voilà, on a une équipe qui teste une élection sans candidat. Plusieurs équipes d'ailleurs qui ont testé des élections sans candidat, par exemple, pour définir quelle personne serait en charge de faire vivre les actions de QVCT en l'absence de la manageuse. Et ça, c'est un exemple assez génial, en fait, parce que là, on parle de responsabilisation des salariés, de prise en compte dans toute la structure de la qualité de vie et des conditions de travail. Et on parle aussi de la, d'une répartition du pouvoir qui est plus juste, en fait, entre les personnes, et d'une, voilà, d'une sorte de lâcher prise, en fait, de la directrice, de la manageuse sur... sur les actions, les résultats, et puis sur le lien de subordination, quelque part.
Absolument, et c'est une répartition du pouvoir ou des responsabilités, d'ailleurs. Et je peux vraiment attester, puisque c'est d'un module avec certains de ces directeurs, directrices, mais accompagnés en binôme d'un collaborateur, d'une collaboratrice en général, qu'ils sont venus à cette formation aux pratiques d'intelligence collective, et que ça nous a frappé, comme il n'y avait pas de subordination dans ces binômes, comme il y avait un vrai rapport d'égalité entre le manager, la manageuse, et sa collègue ou son collègue. Et ça nous a vraiment touchés, en fait. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée.
On continue d'expérimenter l'entracte, et on a expérimenté Limoges-Acte aussi. Et je crois que c'est juste d'en parler, parce que à travers l'approche sectorielle, on va dire, des offices de tourisme et de l'entracte, on a fait une approche sur le territoire de Limoges, à travers un parcours à peu près similaire. Donc nous sommes allés chercher des dirigeants d'entreprises de Limoges, de tout secteur d'activité, avec un marché, des clients différents, et même des statuts différents, et des tailles d'entreprises différentes. Vraiment, 8 managers d'entreprises très différents du territoire. Et on a fait les mêmes constats, quel que soit notre secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Cet invisible, les liens, les relations, l'interne, l'organisation, c'est les mêmes, on a tiré les mêmes conclusions. Travailler ensemble nécessite d'en avoir conscience et d'en prendre soin pour prendre des décisions.
Tout à fait. Et puis en parlant de ça, effectivement, vous me donniez l'exemple de... Et puis j'avais pas vu, en fait, cette systémique. C'est moi qui travaille dans telle entreprise, ben, fatalement que je suis venue ce matin travailler dans cette entreprise, parce qu'une autre entreprise de la région m'a permis, grâce à ces bus, d'arriver. Une autre école, qui est aussi un endroit de travail, a permis que je dépose mes enfants, je sais qu'ils suivent des cours, que je sais qu'une autre entreprise, qui est une épicerie, ce soir me permettra d'aller chercher ce dont j'ai besoin. Et donc il y a aussi tout ce tissu systémique où les personnes sont reliées par le travail, en fait, et où c'est intéressant d'aller s'interroger ensemble. C'est un des rôles de Limoges Acte.
Oui, Limoges Acte, c'est cette notion de QVTT, un nouveau sigle, désolé, c'est la qualité de vie au travail territoriale. Et à travers ça, ce qu'on souhaite, c'est ce que tu dis, hein, illustrer pour le rendre concret. Et c'est, on est citoyen et on est salarié. Nous sommes salariés et nous sommes citoyens. On arrive au travail après avoir déposé nos enfants à l'école, après avoir pris des moyens de communication, après être coincé ou non dans des embouteillages, être venu en vélo. Donc on arrive au travail avec le territoire ou comment on le perçoit. Et ça me semblait juste de travailler sur cette question-là aussi et de trouver, de faire un parallèle entre les principes de la QVCT qu'on a expliqué tout à l'heure et la qualité de vie au travail sur un territoire. Comment ce territoire-là travaille cette question-là? Comment les entreprises sont en connexion, visible ou invisible, comment elles coopèrent? Et comment on trouve des solutions et des idées créatives ensemble pour se donner des moyens d'avoir sur un territoire des conditions de travail et une qualité de vie au travail et une qualité de vie meilleure.
Alors tout ce que vous avez mis en place à la Mona et puis dans le réseau autour de la Mona vous a donné envie d'élargir encore. Et donc pour ça, vous êtes aussi en train de créer une nouvelle structure qui s'appelle Teract. Voilà, une appellation puissante. Je vous laisse en parler quelques instants de ce qui meut Teract.
Alors ce qui meut Teract, justement, c'est ce lien entre... le territoire, la terre, le terreau et l'amélioration des conditions de travail. Donc c'est vraiment cette contraction-là et surtout cette interrelation-là. Et on a voulu créer Teract pour poursuivre en fait cette exploration lancée avec Limojact sur ce que c'est qu'une dynamique territoriale de qualité de vie au travail. Et on a voulu aller plus loin en continuant à accompagner des organisations sur ce sujet-là et vraiment en mariant les sujets de la QVCT, on prend ces sujets-là, on les explore, le management, les relations de travail, la santé au travail, comment on peut traiter tout ça avec des pratiques d'intelligence collective. Donc c'est vraiment ce lien-là qu'on essaie de faire. Et pour créer cette activité, on n'a pas souhaité créer une autre entreprise, quelque chose qui existe en plus de tout ce qui existe déjà, parce qu'il y a, voilà, il existe beaucoup d'associations, beaucoup d'entreprises, beaucoup de structures, et on avait aussi envie d'expérimenter encore un autre rapport au travail, au collectif, et aussi un autre rapport à l'argent. Donc on est rentré dans une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle Oxalis, qui a un groupe local dans le Limousin, donc avec des coopérateurs et des coopératrices qui sont ancrés dans le Limousin et qui nous permet de nous retrouver. Alors qu'est-ce que c'est peut-être qu'une coopérative d'activité et d'emploi ? C'est une structure, c'est une SCOP, hein, donc avec le principe de la coopérative et le principe un associé égale une voix. Et c'est une SCOP qui est constituée d'entrepreneurs, salariés et associés. Donc on expérimente cette triple casquette que tu connais aussi Marine, en étant salarié avec les questions liées au salariat, le statut d'entrepreneur avec une activité qui est propre, qui fonctionne de manière quasi autonome, et puis le statut d'associé qui permet de prendre part à la vie coopérative. Et ce qui est assez génial, c'est que au sein du groupe local, par exemple, on se retrouve avec des boulangers. Voilà, donc on échange sur nos pratiques de travail et sur notre rapport au travail, sur ce qu'on peut apporter ensemble au monde avec des prismes et des casquettes et des métiers complètement différents.
Absolument. Et effectivement, comme tu le disais, moi aussi, je suis en coopérative d'activité d'emploi et je trouve que c'est un modèle extrêmement intéressant qui, justement, pour moi, fait arriver à cette qualité de vie au travail, puisque on a cette autonomie dont on parlait au début, on a ce lien avec les autres, cette possibilité, quand on est participatif dans notre CAE, d'agir pour le futur de la CAE ensemble, en montant des projets ensemble. Et je trouve que c'est vraiment un modèle de travail, oui, qui allie beaucoup de choses. Voilà, moi je suis chez Solstice pour les Dromois, les Ardéchois, mais j'ai aussi été entrepreneur salarié chez Omnicité à Paris, et je trouve que c'est un modèle récent, innovant, qui rassemble beaucoup de qualités qui permettent de se sentir bien et de se développer tout en n'étant pas seul. Bon, eh bien, Charlotte et Florent, nous acheminons là vers la fin de cet épisode. Et je vous remercie vraiment d'avoir témoigné que dans ce secteur du travail et de la qualité du travail, des relations au travail, de la vie au travail, il y a vraiment moyen de faire des choses. Voilà, on n'est pas obligé de se dire « c'est comme ça et puis je vais attendre ma retraite ». Voilà, non seulement d'avoir témoigné que ça peut être quelque chose à penser, à regarder, à expérimenter, ces interstices, à aller explorer et vraiment comme on peut utiliser des pratiques qui permettent, entre autres les pratiques d'intelligence collective, qui permettent de faire ensemble et d'œuvrer ensemble à quelque chose qui nous rassemble là, qui est ce collectif, que ce soit une entreprise, une association ou autre. Est-ce que vous auriez encore envie d'ajouter quelque chose pour terminer cet épisode?
Oui, je veux bien, merci. J'étais ravi de ce temps passé, je ne l'ai pas vu passer. La raison d'être de Teract, c'est d'éveiller les consciences. Ça, c'est puissant, c'est fort. On est garant de ça et on est co-garant de ça et de voir comment ça va évoluer, cette raison d'être. Pour nous, c'est juste que ça soit celle-ci raison d'être. Si je fais le lien avec l'école, qui prône des notes, qui prône la compétition, qui demande de plus en plus jeune à trouver quel métier on doit faire plus tard, de faire attention à nos comportements, parce que c'est écrit dans un rapport qui pourra être lu par des écoles sur lesquelles on va postuler, qui va nous conditionner. Je me dis, c'est dommage et il faut pas. Ouf. Et donc il faut éveiller les consciences. Il faut s'éveiller, éveiller sa propre conscience, éveiller celle de tout le monde et des autres, des enseignants, mais surtout des élèves et des futurs adultes. En fait, on veut travailler pour un futur désirable, en tout cas, Teract, c'est un peu ça. mais très certainement qu'on n'en verra pas les fruits de cet arbre, ou pas tous. Ou pas la meilleure cuvée, je sais pas comment le dire. Mais voilà, c'est pour nous. Essayons de faire rentrer Teract dans ce genre d'entreprise. Quand je dis entreprise, c'est l'école, des choses où c'est difficile de faire bouger les choses pour que on n'ait pas à soigner des maux, parce que ce sera certainement trop tard. En essayant de créer des petits individus, des êtres plus conscients du relation, de l'invisible, de leur rapport aux autres. Et si le prisme et le paradigme financier ne changent pas, on devra travailler dans les années prochaines pour avoir de l'argent. Donc ça va peut-être pas changer si tôt. Donc essayons de faire que, à cet endroit-là, ils soient un peu plus conscients de leur rapport au travail, de pourquoi ils travaillent.
Merci Florent. Quand tu as dit prévenir, plutôt que soigner en amont, moi j'avais vraiment envie de reboucler le lien dont on a parlé au début avec la relation et avec la santé, et notamment avec les établissements de santé aujourd'hui et la manière dont on y travaille, et qui est plutôt problématique. Et je pense que toutes ces pratiques-là y auraient leur place. Et qu'en tant qu'individu, on doit aussi chacun prendre en compte cette santé-là et tenir compte du, du rapport que le travail joue dans notre santé, mais en positif comme en négatif, en fait. Et c'est là faire le lien aussi avec faire sortir le travail uniquement de sa bulle, mais l'intégrer vraiment comme quelque chose qui fait partie de notre vie, de nos vies. Et peut-être aussi, d'intégrer des pratiques qu'on découvre au travail. Peut-être que certaines découvrent des pratiques d'intelligence collective au travail qu'ils auront envie de ramener ailleurs dans leur vie parce que ça fonctionne pas toujours comme ça avec nos familles, nos amis, et ramener un peu de légèreté, de souplesse, de plaisir aussi dans la manière dont on est en relation les uns et les unes avec les autres.
Merci à tous les deux. C'est un plaisir pour moi, ce partage autour de ce micro. Merci aux auditrices, merci aux auditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de 3 jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie la Fondation belge Kigreen pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, est de contribuer à la transition écologique et de soutenir des projets encourageant de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.